médecin est à vous et voilà quelques pistes.
Merci beaucoup pour cette amicale introduction. Et puis surtout, merci à vous d'être venus aussi nombreux. Il a fallu rajouter des chaises. J'espère pouvoir être à la hauteur. Et puis pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis aussi et surtout creusotin avant d'être conférencier, ce qui n'est pas du tout mon métier, donc vous pardonnerez peut-être le manque de professionnalisme de quelqu'un qui fait autre chose de ses journées que de faire des conférences. Voilà, donc effectivement, l'Académie François Bourbon m'avait sollicité pour vous parler d'Ariane 6, une nouvelle aventure qui démarre pour l'Europe et qui démarre avec une dynamique complètement différente de ce qui a été fait pour les générations précédentes d'Ariane 1 jusqu'à Ariane 5. Et je vais commencer par un peu d'histoire. L'histoire d'Ariane 5, en fait, commence... Excusez-moi. Je vais essayer de ne pas vous emmener jusqu'au petit déjeuner. Donc. L'histoire d'Ariane 5, en fait, commence du temps de la guerre froide. Ariane 5 a été pensé dans les années 70 et dès 1979, la couverture du magazine Science & Vie en octobre 1979 préfigurait déjà Ariane 5 puisqu'à l'époque l'Europe rêvait encore de vols habités et donc Ariane 5 était imaginé déjà à cette époque-là pour emporter une navette française ou une navette européenne avec bien sûr des astronautes à bord d'une future station spatiale. Ce qui est étonnant, vu de nos anciens, c'est qu'en octobre 1979, quand on pensait déjà à Ariane 5, on pensait à la navette spatiale, Ariane 1 n'avait pas encore volé. Parce qu'Ariane 1 a volé le 24 décembre 1979, et donc trois mois avant, nos anciens imaginaient déjà des suites extrêmement ambitieuses pour l'ensemble de la famille Ariane. Après 1979 arrivent les années 80 et donc les projets commencent de prendre forme. Vous voyez donc ce qui est devenu Ariane 1, ce qui était donc Ariane 1 à partir de décembre 1979. Puis ensuite, déjà, on imaginait une famille Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4 et toujours Ariane 5 avec la capacité, tout au bout à droite, d'emmener une navette avec des astronautes européens dans l'espace. Il y avait également une version d'Ariane 5, comme vous le voyez, sur l'avant-dernière figure vers la droite, qui était capable d'emporter des satellites dans l'espace. Donc en 1985, le programme Ariane 5 démarre. C'est un programme, bien sûr, européen, et qui, à l'époque, cet Ariane 5 a plusieurs configurations. Donc une configuration avec quelques satellites, à gauche, trois petits satellites, une configuration avec deux satellites et un étage supérieur différent. Et puis toujours cette configuration avec la navette spatiale, la future navette spatiale européenne, dont vous savez qu'elle a été finalement arrêtée au début des années 1990, faute de budget européen pour la poursuivre. Donc l'histoire d'Ariane 5 a démarré à ce moment-là, j'insiste là-dessus, parce que évidemment quand on parle d'une nouvelle dynamique pour Ariane 6, il faut voir qu'Ariane 5 est un lanceur qui reste le leader sur le marché commercial mondial actuel. Mais c'est un lanceur qui date d'il y a déjà 30 ans, les projets dataient d'il y a 30 ans. En 1989, on imagine toujours cette navette. Et puis, j'ai rappelé ce qu'était un ingénieur, ça c'était surtout pour les plus jeunes, pour leur montrer quand même à l'époque comment nous travaillions pour développer des fusées. Donc, vous voyez une ingénieure de l'aérospatiale avec son écran d'ordinateur et des dessins qui étaient quand même des dessins très sommaires, pour arriver à développer cette Ariane. Les ordinateurs qui faisaient la taille de l'époque, bien évidemment. Et puis pour les plus jeunes qui sont là, le petit objet à gauche sur la table, c'est un téléphone de l'époque. Voilà. Donc on a conçu Ariane à l'époque avec ces moyens-là, avec ces ingénieurs-là, qui les ingénieurs sont toujours là, ont été renouvelés, et les moyens ont changé dans des proportions. Donc en résumé, cette Ariane 5 va voler pour la première fois en 1996, malheureusement avec un échec dont on ressortira encore plus fort. Et cette Ariane 5 est devenue le leader mondial, comme je le disais, des services de lancement commerciaux depuis de nombreuses années. Donc cette filière Ariane est devenue un grand succès européen. Il y a eu 11 succès du lanceur Ariane 1. Les versions intermédiaires Ariane 2, Ariane 3 ont eu quelques vols. Il y a eu l'énorme réussite d'Ariane 4 avec 116 succès pour ce lanceur Ariane 4. Mais vous voyez que nous parlions de lanceurs à l'époque qui étaient capables d'envoyer des satellites de l'ordre de 2 tonnes en orbite, 1 tonne 9 pour Ariane 1 et puis 2 tonnes 8 pour la petite version d'Ariane 4, jusqu'à 5 tonnes pour la version la plus grosse d'Ariane 4, puisqu'il y avait déjà plusieurs versions sur Ariane 4. Et avec Ariane 5, donc les deux versions que j'ai montrées tout à l'heure, puisque la version avec la navette n'existe plus, il y avait deux versions envisagées pour Ariane 5, une version avec 6 tonnes et une version ultime qui était et qui est toujours capable d'envoyer 5 tonnes dans l'espace, ce qu'on appelle en orbite géostationnaire, ce qui est un petit peu la référence des marchés de satellites, des marchés commerciaux, puisque ce sont les satellites qui permettent d'être toujours en point fixe au-dessus d'un point de la Terre, ce qui est absolument essentiel, bien évidemment, pour tout ce qui est télécommunication. Télécommunication, ça veut dire télévision, téléphone, transfert de données. Voilà, cette réussite d'Ariane 5 résulte d'un montage européen un petit peu compliqué, comme ça a été signalé en introduction. Je vais en dire deux mots. Les grands acteurs, c'est l'ESA. L'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne, l'European Space Agency, qui regroupe maintenant plus de 20 pays. 20 pays qui ont créé cette agence ensemble pour développer le spatial en Europe. Les lanceurs, mais également les satellites, les missions scientifiques, la magnifique mission de Rosetta et Philae que vous avez créée l'année dernière a été développée par l'Agence spatiale européenne. Et donc cette agence spatiale finance le développement en récupérant des budgets d'une douzaine d'États européens pour Ariane. Cette agence spatiale finance le développement d'Ariane, a financé Ariane 1, Ariane 5, et va financer donc Ariane 6. Il y a une deuxième société que vous connaissez très bien qui s'appelle Ariane Espace, qui est l'image de marque d'Ariane. C'est la société qui commercialise Ariane. C'est une société que l'on va faire évoluer dans les prochaines semaines. Cette société regroupe en fait les industriels majeurs qui participent au programme Ariane, qui fabriquent le lanceur Ariane, et l'agence spatiale française qui est le CNES. Donc le CNES a été le support technique de tout le développement des familles Ariane depuis la création du CNES il y a une cinquantaine d'années, un petit peu plus maintenant. Le CNES est toujours extrêmement présent, bien sûr, en soutien à l'Agence spatiale européenne, et le CNES a la responsabilité de la base spatiale guyanaise à Kourou, qui est une base spatiale française, mais qui est bien sûr utilisée par l'Agence spatiale européenne et par Ariane Espace pour les lancements d'Ariane. La fabrication d'Ariane, comme je le disais, est répartie dans 12 pays européens, avec des montages un peu compliqués, je vais y venir. Et donc tout récemment, cette fabrication des lanceurs Ariane a été regroupée par Airbus et par Safran, deux grands groupes mondiaux d'implantation principalement française. Airbus, c'est tête aérospatiale qui a fusionné avec l'équivalent allemand, espagnol et britannique pour créer ADS et qui s'appelle maintenant Airbus. Safran, c'est un groupe de sociétés dont ce n'est pas bien connu au Creusot, juste sous ses fenêtres pratiquement. Donc le groupe Safran, c'est le plus grand motoriste mondial en termes de fabrication de moteurs pour avions, pour hélicoptères et bien sûr pour également des moteurs pour les lanceurs et pour les satellites. Donc ces deux grands groupes mondiaux ont décidé d'allier leurs efforts et de créer en janvier 2015, donc il y a juste un peu plus d'un an, une société qu'on a appelée Airbus Safran Launchers. C'est pas très original, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est le regroupement des capacités d'Airbus et de Safran en matière de lanceurs pour atteindre l'espace. Bon, les deux groupes ont eu la gentillesse de confier la responsabilité de cette société, donc depuis le début de l'année dernière. Et cette société reçoit donc des commandes de la part de l'Agence spatiale européenne pour développer Ariane 6, et encore pour améliorer Ariane 5. Nous recevons également des commandes d'Ariane Espace, qui est la société commerciale qui va chercher des contrats dans le monde entier pour lancer des satellites. Et nous développons et nous fabriquons les lanceurs Ariane 5. Et nous avons commencé à travailler sur Ariane 6 en animant un réseau d'industriels européens dans les 12 pays que j'ai évoqués tout à l'heure. Les principaux pays sont la France. Vous voyez en analysant le camembert en bas à droite, la France finance un peu plus de 50% des lanceurs Ariane. L'Allemagne est en train d'accroître sa participation de 15 à 20%. L'Italie représente 10% dans la fabrication de ces lanceurs Ariane. Et puis on trouve ensuite la Belgique, l'Espagne, la Suisse aux alentours de 2 ou 3% chacun. Plus ensuite d'autres pays comme la Hollande, l'Autriche et j'en oublie quelques-uns. La Norvège, la Suède, bien sûr, également. Voilà donc l'organisation industrielle compliquée du lanceur Ariane, puisque chaque pays apporte un budget pour pouvoir développer et maintenant fabriquer le lanceur Ariane et encore l'améliorer. Mais bien évidemment, ce pays demande à ce que le budget qu'il a investi dans le lanceur Ariane revienne dans son industrie. C'est ce que nous appelons le retour géographique. Et donc, il faut arriver à faire un lanceur avec des petits morceaux. Je prends l'exemple de la Norvège qui finance moins de 1% du programme, mais qui dit « je veux faire tel et tel morceau du lanceur », ce qui évidemment nous conduit à un mécano industriel un petit peu compliqué. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout ceci, toute cette fabrication qui est faite en Europe se retrouve ensuite sur le territoire français, mais en Guyane cette fois-ci, sur le lancement, le pas de tir de Kourou, le centre de lancement de Kourou. Donc vous avez une photo, en tout cas pour la partie principale de ce centre de lancement de Kourou. Donc à Kourou, ce que nous faisons, vous le voyez à droite, c'est l'intégration des étages à propulsion solide, ce que nous appelons les boosters d'Ariane. Les grandes structures viennent d'Europe, en l'occurrence elles viennent d'Allemagne. La tuilière vient de France, de Bordeaux, et nous fabriquons disons, l'explosif qui est à l'intérieur de ces boosters, qui vont arracher Ariane du sol. Dans le bâtiment d'intégration lanceur, le point numéro 1 sur le schéma ici, nous recevons les grands étages qui viennent des bureaux pour l'étage central et de Brême, qui sont deux établissements de ma société Airbus Safran Launcher, qui livre donc ces deux étages à Kourou. Et dans le bâtiment d'intégration lanceur, nous rassemblons ces deux étages plus les boosters de façon à constituer le lanceur. Ensuite, dans le bâtiment d'assemblage final, le point numéro 2 sur la planche, on va trouver les satellites qui, effectivement, sont amenés par les fabricants de satellites et par les clients d'Ariane qui nous ont acheté le lancement pour emmener leurs satellites sur la bonne orbite dans l'espace. Donc, Ariane Espace intègre ses satellites sur le lanceur Ariane. Tout ceci se retrouve ensuite sur le pas de tir en bas à gauche. Vous voyez une Ariane sur son pas de tir, prête à partir ici. Et si la technique marche bien, ce qui n'est pas le cas, j'espère. Voilà, je voulais le fichier. Bon, alors, je vais essayer de retrouver le fichier. Voilà, vous êtes à Kourou et vous allez partir avec le lanceur en N5.
Et on peut sentir ici dans ce bâtiment Jupiter les vibrations alors que les 1300 tonnes de poussée de la fusée l'arrachent de l'attraction terrestre. 90% de cette puissance vient des deux EAV, chacun fait 31 mètres, ils brûlent chacun 240 tonnes de poudre en 2 minutes, 2 tonnes par seconde. L'événement à suivre, bien sûr, ce sera l'extinction et le largage de ces deux EAV, et en dépit des nuages, je pense qu'on va peut-être réussir à faire ce largage de ces deux EAV. Regardez attentivement l'écran.
Les EAP, c'est ce que j'appelle les boosters, les étages à couvrir.
Que les EAP ont fait leur travail, on en a plus besoin.
À tous les éléments, attention sur les points finales. 7, 6, 5, 4.
Voilà, je voulais vous remontrer ce superbe décollage. Je suis désolé pour les petites manips, normalement ça devait s'enchaîner directement, mais on va essayer d'y arriver. Voilà, donc ça c'est Ariane 5. Alors Ariane 5, je le disais tout à l'heure, est le leader sur le marché commercial, puisque il y a un certain nombre de fabricants de satellites dans le monde, mais il y a également un certain nombre de fabricants de lanceurs. C'est un marché commercial. Il s'agit d'avoir la performance qu'attendent les clients. Il s'agit bien sûr également d'avoir la qualité, la ponctualité et bien évidemment le coût pour pouvoir gagner ces contrats. Alors, dans le monde, on ne le voit pas parce que ça fait presque partie de la normalité, des choses dont on ne parle plus, il y a à peu près 90 lancements de fusées tous les ans. Et c'est à peu près stable depuis une dizaine d'années. Il y a eu un creux au début des années 2000 parce que Internet avait été un petit peu trop ambitieux, mais depuis une dizaine d'années, il y a environ 90 lancements dans le monde. Dont on n'entend pas beaucoup parler, tout simplement parce que 85% à peu près de ces lancements sont des lancements gouvernementaux. Ce sont des lancements, vous le voyez, là c'est les chiffres de l'année 2014, des lancements américains, russes ou chinois principalement, qui sont des lancements pour les gouvernements. Ce sont des satellites militaires, des satellites d'observation, des satellites d'écoute, des satellites de renseignement, bien évidemment, ou également des satellites de surveillance, en particulier de surveillance de départ de missiles balistiques. Il faut bien voir que sur l'année 2014, la Chine, alors le chiffre c'est 16 lancements, 23 aux États-Unis. En 2012 et en 2013, la Chine avait fait plus de lancements que les Américains. On compte dans les lancements américains également les lancements de la navette spatiale américaine. Donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours très connu, mais la Chine avait fait plus de 20 lancements en 2013, plus de 20 lancements en 2014, et je crois qu'ils en feront encore plus de 20. En 2016, les États-Unis étant toujours aux alentours de 18 à 22, 23 lanceurs par an. Et ceux qui continuent d'avoir le plus grand nombre de lancements par an, ce sont les Russes avec plus de 30 lancements par an. C'est assez stable, une fois de plus, depuis une dizaine d'années. Et vous voyez que l'Europe, en rouge, en bas à droite, eh bien, l'Europe a réussi, et c'est presque un record, 11 lancements en 2014, on a réussi 12 lancements en 2015. Pour être honnête sur ces lancements, les 11 lancements, il y a quand même 3 lanceurs Soyuz, qui est un lanceur russe, mais qui est tiré depuis Kourou, pour des raisons que je ne détaillerai pas ce soir, mais donc l'Europe a décidé effectivement d'avoir cette capacité d'utiliser les lanceurs Soyuz depuis Kourou. Et il y a d'ailleurs un tir, si tout va bien, à 23h ce soir, depuis Kourou, avec un lanceur Soyuz pour lancer un satellite de la Commission européenne, et c'est un satellite d'observation de la Terre. Et puis ensuite, vous trouvez donc sur ce marché des lancements quelques lancements japonais ou indiens, 4 ou 5 lancements indiens avec un petit lanceur. Ils sont très très réguliers à 4 ou 5 lancements depuis une dizaine d'années. Et puis le Japon qui fait entre 2 et 4 lancements par an. Et de façon plus anecdotique, l'Israël où ensuite vous savez qu'il y a des essais de lancement iraniens, sans parler de la Corée du Nord. Donc voilà le marché sur lequel nous battons. Et malheureusement, en ce qui concerne Ariane, pour y revenir, et vous voyez qu'Ariane, c'est 5-6 lancements par an maximum, mais malheureusement, nous n'avons pas en Europe de marché gouvernemental. Contrairement à nos concurrents qui sont américains, qui sont russes et qui sont chinois, et qui bénéficient d'un marché gouvernemental, qui est bien sûr un marché fermé, jamais les Américains ne lanceraient leur satellite GPS, ceux que vous utilisez pour vos voitures, avec Ariane, c'est bien sûr des lancements exclusifs pour des lanceurs américains. A contrario, l'Europe a décidé d'ouvrir ses portes, d'ouvrir ses frontières, et donc l'Europe lance les Galileo, qui sont les futurs GPS européens, qui vont marcher normalement avant la fin de l'année. On va avoir les premiers signaux Galileo avant la fin de l'année. Jusqu'à maintenant, tous les satellites Galileo européens ont été lancés par le lanceur russe Soyuz. Nous devrions avoir des lancements de Galileo avec Ariane 5 au mois de novembre de cette année. Donc la conséquence pour nous, pour toute l'industrie européenne sur Ariane, c'est tout simplement d'être obligé d'aller gagner des parts de marché sur le marché commercial, qui est un marché tout petit, sur lequel nous devons être les leaders, et c'est le cas aujourd'hui, pour arriver à faire tourner les usines et pour arriver à rester effectivement dans la course en tête pour l'accès à l'espace en Europe. Alors ses concurrents principaux, c'est le lanceur Proton, le lanceur russe, dérivé d'un missile balistique, le lanceur Atlas V, qui est un lanceur américain, qui est réalisé conjointement par Boeing et Lockheed Martin, deux énormes sociétés américaines. Le lanceur Zenit est un lanceur ukrainien, mais qui est en fin de vie, en particulier depuis la fin de l'URSS. L'Ukraine a du mal à maintenir son industrie spatiale. Le lanceur H2 japonais de Mitsubishi. Le lanceur Long March 3 des Chinois. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, le lanceur indien GSLV Mark II, qui est en cours de développement, de fin de développement. Et puis, bien sûr, le fameux Falcon 9 des Américains, de SpaceX et de M. Elon Musk, dont j'aurai l'occasion de reparler. Alors, je voulais vous montrer justement un lancement de SpaceX. Donc, ça ne va pas mieux marcher tout à l'heure. Voilà un lancement de SpaceX, notre nouveau concurrent américain qui existe depuis 3-4 ans avec une approche tout à fait nouvelle pour développer ce lanceur. Donc c'est un lanceur plus petit que le lanceur Ariane 5, hein, vous le voyez, donc il n'a pas la même capacité d'emport qu'Ariane 5. Il a une capacité maximale de 5 tonnes en orbite géostationnaire, là où Ariane 5 a une capacité supérieure à 10 tonnes. Et donc la caractéristique de notre concurrent américain, c'est ce que vous voyez en ce moment, j'espère que la luminosité est suffisamment bonne, c'est qu'ils ont récupéré le premier étage et ils ont réussi à faire réatterrir le premier étage de la fusée, une première fois sur le sol et une deuxième fois, je vous repasse les images, sur une barge qui était au large de la côte de la Floride. Donc un concurrent extrêmement innovant, c'est le premier lanceur qui a développé dans le monde depuis la fin de la guerre froide, donc avec une approche complètement nouvelle, une approche d'un industriel, donc qui est le milliardaire Elon Musk, qui a réussi sur Internet dans la nouvelle économie, notamment avec la société PayPal, qu'il a revendue, et il investit maintenant son argent, il investit dans les lanceurs, surtout celui de la NASA, pour développer un nouveau lanceur à des fins purement commerciales. Donc ce nouveau lanceur, M. Elon Musk, le propriétaire de SpaceX, qui a créé la société, investit également dans les voitures Tesla, les voitures électriques bien connues, et il investit également dans des usines de fabrication de batteries électriques pour les voitures, mais pas uniquement pour les voitures. Donc c'est un concurrent tout à fait nouveau, puisque lui, il arrive avec des idées de la nouvelle économie, des idées d'Internet, pas du tout de soucis de retour géographique, pas du tout de contraintes liées aux commandes gouvernementales, si je puis dire, une approche purement commerciale. Comment rendre l'accès à l'espace plus accessible, moins cher, donc, et avec des capacités d'emport plus importantes. Alors nos concurrents... Je l'évoquais, concurrent russe, lui a un lanceur beaucoup plus ancien, de la même génération, même un petit peu plus vieux encore qu'Ariane. Bon. Et notre concurrent russe, malgré toute la compétence des Russes, a de temps en temps des soucis. Donc ça, c'est un film qui est au ralenti, hein, le lanceur d'école du Nikesa. Et c'est simplement pour vous montrer que nous sommes dans un métier extrêmement difficile, puisque malgré toute la compétence des Russes, 1800 lancements Soyouz réussis, je crois pas loin de 300 lancements réussis avec ce lanceur Proton, mais malheureusement un échec il y a quelque temps. Vous voyez un problème de propulsion au départ du lanceur. Le lanceur prend une inclinaison extrêmement importante. Il y a ensuite une correction de trajectoire beaucoup trop violente. Vous allez voir ce qui arrive quand soit les ingénieurs, soit les ouvriers dans les usines n'ont pas le niveau de de qualité maintenu en permanence pour pouvoir assurer les succès. Vous voyez que le lanceur dévie complètement de sa trajectoire. Le lanceur, en fait, est en train de revenir vers la Terre. Et comme il n'est pas conçu pour prendre ce genre de virage, le lanceur va se briser sous les efforts aérodynamiques créés par ce virage. Une fois de plus, c'est au ralenti. Hein, tout ceci a duré 2 ou 3 secondes. Donc, voilà, le lanceur se brise et les réservoirs d'ergol, évidemment, éclatent. Et le lanceur finit par exploser au moment où il retombe sur le sol. Bon, ceci pour dire que, une fois de plus, c'est un métier compliqué. Nous avons besoin d'ingénieurs extrêmement performants. Nous avons besoin d'ouvriers qualifiés. Nous avons besoin en permanence de professionnels qui cherchent à effectivement réaliser leur travail à 100% de ce qui est nécessaire pour que nous puissions réussir. Voilà, alors ce qui s'est passé, SpaceX a été créé en 2002. Ils sont en train de vivre leur 15e année d'existence. Donc vous lisez dans la presse que c'est nouveau. La presse aime bien sûr les effets d'annonce, aime bien ce qui est nouveau. C'est quand même une société que nous suivons de près depuis une quinzaine d'années, qui a eu elle aussi pas mal d'échecs au début, et encore un échec d'ailleurs au mois de juin de l'année dernière. Mais ça fait partie de l'apprentissage, et tous les échecs ne font que les renforcer, les aident à devenir meilleurs face à nous. Et puis SpaceX a commencé à rencontrer des succès commerciaux, puisqu'en 2013, pour les satellites de la gamme 3 à 4 tonnes de satellites, il y a eu 9 satellites qui ont cherché une option de lancement sur l'année 2013. Et sur ces 9 clients, les 9 ont choisi d'être lancés par SpaceX. Il n'y a rien, n'est-ce pas? Ça fait une année blanche en 2013 en termes de prise de commande. Donc une année blanche en 2013, ça veut dire un arrêt de production 2 ou 3 ans après, puisqu'on a à peu près 3 ans pour fabriquer un lanceur à partir du moment où on nous l'a commandé. Donc là, il y a quand même eu un réveil européen, même si nous, une fois de plus, nous suivions SpaceX depuis longtemps. Le fait qu'ils aient réussi à casser les prix, pratiquement diviser les prix par 2, ils ont annoncé par 10 au début, mais ils ont quand même réussi le challenge de diviser les prix par 2, a amené l'Europe à réfléchir, a amené l'Europe à réagir, et donc à mettre en place un changement en Europe extrêmement important, j'allais dire, extrêmement important pour nous, dans notre petit monde des lanceurs, bien évidemment. Et ce changement a consisté à répondre à, non seulement à l'évolution de SpaceX, mais à répondre à une évolution absolument majeure dans le spatial. Vous savez, la plupart d'entre vous, ce que sont les objets connectés. Alors, ce sont évidemment les ordinateurs, les téléphones, mais de plus en plus les voitures, mais de plus en plus les objets que vous portez sur vous. J'ai des statistiques, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a dès aujourd'hui plusieurs milliards d'objets qui sont connectés à Internet, c'est bien d'objets, et il est envisagé pour 2020 qu'il y ait de l'ordre d'une cinquantaine de milliards d'objets dans le monde qui soient connectés à Internet. Alors, je ne vais pas faire de commentaires sur le sujet, il y a effectivement des objets connectés pour les aspects ludiques, bien évidemment, mais je pense aussi qu'il y a des objets connectés qui vont vous aider, nous aider dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité. Quelqu'un qui a besoin d'une surveillance médicale pourra avoir quelque chose qui soit connecté en permanence avec un hôpital, évidemment par Internet. Bon, même chose sur l'environnement, une fois plus sur la santé, sur les transports. Donc il y a une explosion du nombre d'objets qui sont connectés, donc une explosion de besoin de connexion à Internet. Je précise aussi que aujourd'hui, même si Internet fait partie de notre vie quotidienne, il y a encore la moitié de l'humanité, donc un peu plus de 3 milliards de personnes ne sont pas connectées à Internet. Je vais y revenir tout à l'heure, ça va faire partie des grandes évolutions pour le spatial dans les années qui viennent. Donc à part cette connexion à Internet, il y a des nouvelles missions qui apparaissent dans le monde, qui sont en train de se développer, c'est ce qu'on appelle des constellations de satellites. C'est-à-dire que c'est remplacer un satellite, je l'évoquais tout à l'heure, qui peut faire 3 tonnes à 6 tonnes à peu près, qui est en position très très haute pour rester en permanence au-dessus du même point, remplacer ça par des centaines de satellites beaucoup plus petits, 100, 200 kilos, donc des petits satellites, mais des centaines, voire des milliers de satellites en orbite beaucoup plus basse, à peu près à 1000 km au-dessus de nos têtes. L'orbite géostationnaire, c'est 36 000 km au-dessus de la Terre. Et donc là, il ne s'agit plus de lancer quelques lanceurs pour pouvoir lancer quelques satellites par an. Il s'agit d'arriver à répondre à un besoin de lancement de centaines de petits satellites par an pour couvrir les besoins d'Internet, pour arriver à arroser l'ensemble de la planète. Et bien évidemment, c'est pas un hasard, les acteurs de la nouvelle économie, je vais en dire un mot tout à l'heure, les Google, Amazon, SpaceX, OneWeb, Facebook, etc., investissent dans le spatial pour pouvoir, tout simplement, non pas parce qu'ils nous aiment bien, ça peut aider, mais ils investissent dans le spatial tout simplement parce qu'ils veulent connecter l'autre moitié de l'humanité qui n'est pas connectée à Internet. C'est tout simplement multiplier leur marché par deux. En plus, avec un marché des objets connectés qui est en train d'exploser, vous imaginez l'appétit de ces géants de ce qu'on appelle la nouvelle économie, de l'économie Internet, pour développer des connexions Internet. Et malheureusement, ou heureusement pour nous, mais je dirais malheureusement pour certains pays n'ont pas les infrastructures nécessaires pour se connecter. Certains pays ne sont pas équipés en téléphone, comme l'Europe, qui a plus rapidement développé l'Internet grâce à des infrastructures sol. Ben, tous ces pays, l'Inde, par exemple, il y a 1 milliard de personnes en Inde qui ne sont pas connectées à Internet et qui n'ont pas les infrastructures pour être connectées. Donc la meilleure façon d'avoir accès à ce marché potentiel pour les gens de l'Internet, ben, c'est simplement l'espace. Et donc ils sont en train de venir dans le spatial. Et c'est ça la révolution que je voulais évoquer aujourd'hui, sans oublier bien sûr des nouvelles missions qui sont en train de se développer. J'ai fait allusion tout à l'heure, voilà ce que c'est qu'un satellite Galileo qui sera plus performant que le GPS pour votre navigation donc à partir de la fin de l'année. L'observation de la Terre qui prend de plus en plus d'importance. J'ai cité le satellite qui sera lancé tout à l'heure, qui s'appelle le satellite Sentinelle pour la Commission européenne. Observation de la Terre, c'est la météorologie, c'est la surveillance de l'environnement, c'est la surveillance de l'évolution du climat. Des nouvelles technologies également pour les satellites, des satellites à propulsion électrique. Je vais passer sur ce sujet. Alors, ces acteurs de la nouvelle économie, je l'ai évoqué, je ne les ai pas tous cités, bon, ils ont beaucoup de relations entre eux. C'est les gens qui viennent de Californie, hein, des fameuses vallées californiennes, qui se connaissent et qui sont à peu près de la même génération, qui sont devenus milliardaires grâce à l'économie Internet et qui, donc, depuis maintenant 3-4 ans, cherchent comment se regrouper, ou alors il y a des alliances, il y a des alliances entre eux, mais il y a quelque chose qui est en train de se créer. Je vais vous donner juste un exemple. Google, avec l'aide d'un fonds de pension, Google a investi tout simplement 1 milliard de dollars dans la société SpaceX pour travailler avec SpaceX pour faire une constellation de 4000 satellites, petits satellites à envoyer dans l'orbite. Donc vous voyez le changement que nous sommes en train de vivre. On est d'un changement où Ariane fait 5-6 lancements par an, avec 2 satellites à chaque fois, donc une dizaine de satellites par an, à une nouvelle économie qui vient nous voir en nous disant: est-ce que vous savez me lancer 200 satellites dans 2 ans? Donc il faut, et bien sûr un prix qui n'a rien à voir avec le prix que nous avons aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc le New Space, avec des acteurs complètement différents. Et je le résume sur cette planche, alors qu'elle est un peu compliquée. Donc traditionnellement, ce que vous avez sur la partie gauche, ce sont des agences spatiales, donc des gouvernements qui financent les développements des lanceurs, et ça c'est vrai dans le monde entier, en Russie, en Chine, aux États-Unis, en Europe. Des acteurs privés, c'est le petit rond ici, qui sont marginaux en ce qui concerne le financement des développements. Donc nous avons maintenant, en tout cas c'est en devenir, un new space avec des acteurs privés qui sont en train de changer complètement la donne en matière de définition de satellites, en matière de politique d'utilisation des satellites, et donc par voie de conséquence en matière de définition de lanceurs. Avec, bien évidemment, un aspect extrêmement important pour eux, qui est le coût. Finalement, ce dont ils ont besoin, c'est les gens qui sont de l'Internet. Ce ne sont pas des gens qui aiment la technologie, comme on aime bien aux autres d'ailleurs. Ce sont des gens qui cherchent avant tout, comme je l'ai dit, à développer leur marché de l'Internet. Pour ça, ils ont besoin d'aller dans l'espace. Bon, quand je dis de temps en temps à mes équipes, pour les pousser un petit peu, en gros, ils ont besoin d'un camion qu'ils vont louer pendant quelques jours pour emmener leurs satellites dans l'espace, pour pouvoir connecter ensuite les stations sol et pour pouvoir faire fonctionner l'Internet. Et donc à ce moment-là, ils font comme vous, quand vous louez une voiture, quand vous arrivez dans une gare ou un aéroport, chercher le joueur le moins cher, et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, sans aucune contrainte de retour géographique ou d'organisation industrielle ou technologique. Ils regardent quel est le service de lancement le moins cher possible. Donc vous voyez l'évolution par rapport à mon introduction. On est parti d'une Ariane 5 conçue au moment de la guerre froide pour faire du vol habité, à une époque où l'investissement dans la technologie, dans la puissance, il fallait montrer ses muscles par rapport aux Américains, par rapport aux Russes. Nous sommes passés de ce monde-là à un monde qui est, je dirais, de la consommation courante où nous avons besoin, enfin ils ont besoin, d'accès à l'espace le moins cher possible. Alors ça se traduit par cette courbe-là, j'ai pas mis les chiffres, mais vous voyez que depuis le début de la décennie, eh bien, le prix au kilo lancé dans l'espace a à peu près divisé par deux, ou est en train d'ici 2020 d'être divisé par deux, alors que nous avions un coût d'accès à l'espace qui était à peu près stable depuis une quinzaine d'années. Il s'agit du coût d'accès à l'espace en dollars, parce que ce marché est en dollars, et donc nous avons en plus en Europe parfois la contrainte, c'est pas le cas pour le moment, mais c'est une contrainte très très forte ces dernières années du taux de change entre le dollar et l'euro. Bon, voilà la conséquence, voilà le grand changement que nous sommes en train de vivre. Nous sommes au début de cette descente du coût d'accès à l'espace. Alors pour répondre à cette réduction de coût, certains, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec le lancement de Falcon 9, se sont dit, pour réduire le coût, j'ai qu'à réutiliser ce qui coûte cher dans le lanceur, c'est-à-dire le premier étage. Le premier étage coûte cher parce que ce sont des gros moteurs. Le premier étage de Falcon 9, comme son nom l'indique, a 9 moteurs. Et donc, ils ont un intérêt à récupérer ces 9 moteurs pour pouvoir les réutiliser, refaire le plein, c'est un petit peu une image, refaire le plein et puis faire repartir le lanceur, si possible plusieurs fois, de façon à réduire le coût total. Bon, c'est pas si simple que ça, c'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau. Vous voyez que depuis les années 80, avec la navette américaine, mais avec également d'autres projets, il y a eu beaucoup de tentatives de réutilisation de lanceurs ou de parties de lanceurs. Jusqu'à maintenant, y compris la navette américaine, il y a eu plus de difficultés que de réussites. La navette américaine, au début du programme, devait voler toutes les semaines. C'était très très loin de ça. Il y a eu deux accidents catastrophiques avec l'essai d'astronautes, comme vous le savez probablement. Et au total, chaque vol de navette américaine coûtait 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Donc ce n'était pas du tout ce qui était envisagé. Bon, de notre côté, vous voyez en bas à droite l'avion spatial sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec mes équipes il y a quelques années pour essayer de concevoir ce que pourrait être un avion spatial. Alors c'est à peu près un avion d'affaires de la gamme Falcon, par exemple, pour citer un avion français de chez Dassault, dans lequel évidemment on a réduit la taille de la place disponible pour les passagers. On envisageait d'emmener 4 passagers. Et on a remplacé toute la partie arrière de l'avion par un moteur fusée, avec bien évidemment les réservoirs. Et l'idée de cet avion spatial, c'était de décoller comme un avion d'affaires, et puis arriver à 10-12 km d'altitude, d'allumer le moteur fusée, un moteur dérivé du moteur d'Ariane, pour aller faire un petit tour dans l'espace et revenir. Ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà ce qu'ont fait d'autres concurrents, beaucoup plus récemment. La planche précédente, c'était tout l'historique depuis les années 80. Là, depuis 4-5 ans, voilà ce que font deux concurrents. Donc à gauche, Blue Origin. Origin est une société qui a été créée par M. Jeff Bezos. Jeff Bezos est propriétaire d'Amazon. Donc Amazon qui a commencé par être une librairie sur Internet et il s'est énormément développé. Et grâce aux milliards qu'il a gagnés, il est en train d'investir dans le spatial. Contrairement à Elon Musk avec SpaceX, il fait très peu de publicité, il avance très vite, il fait peu de publicité, il ne vise pas le marché commercial que j'ai évoqué tout de suite de lancement des satellites, il vise vraiment ce qu'on appelle le tourisme spatial, c'est-à-dire vous emmener à bord de son lanceur pour une somme, on parle de centaines de milliers d'euros pour faire ce petit voyage dans l'espace, mais il y a un marché. Et il est en train de qualifier le lanceur qui est à gauche sur la photo avec la capsule. Et je vais vous inviter à faire un petit tour à bord.
retrouver le fichier.
Voilà, donc c'était le troisième vol du même étage, donc qui avait été récupéré deux fois. Donc vous voyez le lanceur avec la capsule qui évidemment n'est pas habitée, qui est équipée pour le moment d'instrumentation scientifique pour vérifier les environnements pendant le vol. Mais très prochainement, vous pourrez être à bord de cette capsule qui décolle du milieu du Texas. Voilà, vous êtes à bord. Et voilà ce que vous pourriez voir depuis les fenêtres de la capsule comme vous serez un touriste de l'espace dans quelques mois ou quelques années. Voilà, l'idée est d'atteindre à peu près 100 km, parce qu'à 100 km d'altitude, vous avez une sensation d'apesanteur totale. Donc à ce moment-là, vous décrochez les ceintures et vous volez dans les capsules pendant 2-3 minutes avant de revenir sur Terre. Voilà la capsule qui revient sur Terre avec les trois parachutes. Alors il faut maîtriser évidemment le choc à l'atterrissage. Et puis l'étage, sans sa capsule cette fois-ci, qui réatterrit de l'endroit où il a décollé. Ce n'est pas un film d'animation, c'est vraiment un film réel de quelque chose qui s'est donc passé il y a quelques jours, début avril. Vous voyez le contrôle parfait de l'atterrissage de ce premier étage. Voilà, donc avec un atterrissage à quelques kilomètres. Voilà ce qui se passe dans l'espace, voilà ce que nous allons vivre dans quelques années. Donc ça, ce n'est pas un lanceur concurrent d'Ariane 5 ou d'Ariane 6, puisque c'est plutôt destiné à faire une exploration spatiale à basse altitude. Mais à partir du moment où on maîtrise ces technologies, on peut imaginer que M. Jeff Bezos ne s'arrêtera peut-être pas là et un jour viendra nous concurrencer sur notre domaine d'activité. Quelques essais à nouveau sur le Falcon pour vous montrer que la vie n'a pas toujours été facile, même s'ils ont une réussite superbe. Voilà, vous avez plusieurs vues, donc 4 essais de retour de l'étage du Falcon 9. Donc l'essai réussi à droite et puis les essais moins réussis, mais une fois de plus, qui était de l'apprentissage sur les images de gauche. Vous voyez la difficulté de faire revenir un étage à la verticale. C'est assez facile de le faire revenir dans un point précis. C'est beaucoup plus difficile d'arriver à contrôler son atterrissage en contrôlant la vitesse et l'attitude de cet étage lorsqu'il revient sur Terre. Voilà, donc une fois évidemment ces étages récupérés, que ce soit celui de Falcon ou celui de Blue Origin, le New Shepard, évidemment, il faut quand même les renvoyer à l'usine pour nettoyer quand même un petit peu les moteurs, enlever toutes les traces des premiers vols, recharger l'étage et repartir. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis. J'ai essayé de vous esquisser l'évolution du marché et puis ce que nos concurrents sont en train de préparer. Et donc la réponse de l'Europe par rapport à cette évolution du marché, à ce nouveau besoin qui apparaît dans l'espace, donc elle est en deux thèmes, donc la création de la société Airbus Safran Launchers et le lancement du programme Ariane 6 qui verra son premier vol en 2020. Donc la société Airbus Safran Launchers, j'en ai dit deux mots tout à l'heure, je ne le répète pas, au total ça fera plus de 8000 personnes en France et en Allemagne, environ 7000 personnes en France et un peu plus de 1000 en Allemagne. Environ 16 sites, y compris bien sûr une présence à Kourou et un certain nombre de filiales ou de participations dans certaines sociétés, dont Arianespace, sachant que Airbus Safran Launchers devrait, dans les prochaines semaines, devenir l'actionnaire majoritaire d'Arianespace, de façon à pouvoir contrôler l'ensemble de la chaîne, de la commercialisation qui est réalisée par Arianespace, jusqu'à la fabrication des lanceurs et la fabrication des moteurs. Donc voilà ce que nous faisons dans cette nouvelle société, mais la société est nouvelle, mais les compétences humaines qui la constituent sont les mêmes et sont celles qui ont fait et qui continuent de faire le succès d'Ariane 5. Alors ce que sera Ariane 6, c'est ça. Deux lanceurs, en fait, Ariane 62 et Ariane 64. La seule différence entre les deux lanceurs, étant le nombre de boosters d'appoint, vous l'apercevez ici. Donc deux boosters latéraux pour Ariane 62 et donc deux boosters supplémentaires, donc quatre au total, pour Ariane 64. Tout le reste, y compris d'ailleurs ces boosters, sont strictement identiques. Nous avons cherché à standardiser la configuration des lanceurs, à vraiment avoir des équipements qui soient totalement communs entre Ariane 62 et Ariane 64. En ce qui concerne les performances, donc nous aurons avec Ariane 62 la performance de 5 tonnes, c'est-à-dire exactement la performance de Falcon 9 aujourd'hui. Et nous aurons avec Ariane 64 le double de la performance de Falcon 9. Et c'est ce qui fera notre compétitivité. Nous avons la chance en Europe de maîtriser deux technologies extraordinaires que ne maîtrise pas la société SpaceX. C'est ce qu'on appelle la propulsion à poudre, donc ces fameux boosters d'appoint qui sont extrêmement énergétiques. Technologie que ne maîtrisent pas les Russes non plus, que maîtrisent les Américains. Hein. La navette avait des boosters de ce type-là et les autres lanceurs américains aussi. Par contre, SpaceX n'a pas cette technologie. Et puis la technologie qu'on appelle de propulsion cryogénique, c'est pour les moteurs qui sont dans la partie centrale d'Ariane. Vous avez deux moteurs, donc un très gros moteur ici, au centre, avec deux réservoirs d'oxygène et d'hydrogène liquide, en bleu et en jaune. Et un deuxième moteur pour la partie étage supérieur, qui est ici, qui est aussi un moteur avec de l'oxygène et d'hydrogène liquide. Ce sont les moteurs les plus performants dans le monde. Technologie que maîtrisent les Américains, les Russes et donc les Européens, notamment avec Safran, et personne d'autre dans le monde. Et grâce à cette performance-là, ben, nous allons avoir, avec un lanceur Ariane 64 qui n'est pas beaucoup plus gros que le Falcon 9, nous allons avoir deux fois la performance du Falcon 9, donc emmener deux satellites dans le même lanceur et donc bénéficier d'un facteur 2 quand on va comparer les coûts de fabrication du lanceur entre Ariane 64 et Falcon 9, quand on va comparer les coûts vus du marché, bien évidemment. Voilà, donc pour rappeler ce que j'ai dit, deux ou quatre boosters, une performance de 5 tonnes ou de 10 tonnes, des éléments totalement communs, et des éléments, alors ça c'est la grande déception des ingénieurs, qui ne sont pas forcément des éléments tout à fait nouveaux. Nous reprenons pour ce gros moteur, l'étage principal, le moteur d'Ariane 5, on va le simplifier, on va le moderniser, mais grossièrement c'est le même moteur. Nous reprenons pour l'étage supérieur un moteur Vinci, qui a été développé depuis une dizaine d'années, qui n'a pas encore volé, mais qui est totalement développé et en cours de qualification. Et puis pour les boosters, nous reprenons pour ces boosters des boosters qui sont dérivés de boosters existants pour le petit lanceur européen qu'on appelle Vega. Voilà, alors Ariane 6, et là aussi c'est un changement très important. Dans le spatial, je l'ai évoqué tout à l'heure, les ingénieurs, les techniciens se font plaisir avec la technologie depuis 30 ans, depuis 40 ans. Bon, et là, le message que je leur passe, et j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour leur passer, c'est le critère numéro 1, c'est de fabriquer un lanceur à 70 millions d'euros. C'est pas de faire de la technologie, c'est pas de faire de la performance, c'est pas d'aller chercher le bout du bout de l'innovation, c'est maintenant être capable de faire un produit qui pourrait être commercialisé, doit être compétitif. Donc le premier critère que nous mettons en avant, c'est le prix. Alors c'est pas nous, l'industrie automobile fait ça depuis très très longtemps, ceux qui conçoivent les voitures, vous avez des designers qui font une belle voiture, mais les ingénieurs, leur métier, c'est d'aller chercher le centime d'euro pour arriver à faire des voitures les plus compétitives possibles sur un marché mondial. Donc c'est cette révolution-là que nous sommes en train de vivre. Alors en plus, ce développement d'Ariane 6, il faut le faire avec un budget de développement réduit, parce que pas vous faire un dessin sur les capacités d'investissement des grands pays européens, mais on n'a pas beaucoup de nouveaux projets, pas beaucoup de budget d'investissement sur des nouveaux projets, donc nous avons été obligés, là aussi, de faire avec les budgets existants. Heureusement, une fois de plus, nous avons des compétences, nous avons des équipements qui fonctionnent sur Ariane 5. Ce qui est nouveau aussi, c'est qu'Airbus Safran Launcher sera la société qui a la responsabilité du développement du lanceur. Depuis le début d'Ariane, c'est le CNES, avec l'Agence spatiale européenne qui était chargée de définir les lanceurs, c'est-à-dire faire les choix technologiques, piloter le développement avec les grands essais de qualification. Et bien là, les États ont décidé de confier à Airbus Safran Launcher cette responsabilité de concevoir et de développer le lanceur, tout simplement parce qu'ils ont considéré, et je reconnais que c'est une décision politique très courageuse, que l'industrie était mieux placée pour définir un lanceur sur un marché commercial qu'une agence étatique qui est assez loin par définition, bien sûr, des marchés commerciaux. Et puis, ben, vous l'avez compris avec les petits films, j'espère en tout cas, les concurrents avancent sur nous, parce que ben, les choses sont parfois compliquées en Europe, monter une coopération, trouver des accords, mettre en place les budgets, tout ceci a pris du temps. Nous avons, pour être clair, 4 à 5 ans de retard sur les concurrents, donc il est impératif, c'est le quatrième critère, il est impératif qu'Ariacide vole en 2020 pour limiter au maximum le retard par rapport aux concurrents qui sont presque déjà sur le marché, notamment avec les options réutilisables que je vous ai montrées. Alors comment on va faire pour faire cet Ariane 6 pas cher? Bon, ben, d'abord, nous parlons avec nos clients. C'est très important parce que vous l'avez vu, j'en ai donné un aperçu, avec les nouvelles constellations, les nouveaux besoins d'observation de la Terre, de navigation. Il faut savoir ce dont les clients ont besoin dans 5 ans ou dans 10 ans pour concevoir le lanceur qui répondra le mieux possible à leurs besoins. Ensuite, nous avons simplifié l'organisation industrielle. Ça, c'est un travail que nous avons mené depuis 2 ans avec les principaux partenaires européens pour faire une organisation industrielle non pas morcelée comme elle l'est sur Ariane 5, mais qu'il soit rationalisé avec des industries spécialisées. On a simplifié la conception du lanceur, je l'ai évoqué tout à l'heure. L'innovation, nous l'avons mise non pas dans la technologie pour aller chercher des boutons à 5 pattes qui ne marcheraient pas bien, l'innovation, on l'a mise dans les façons de travailler. Nous avons réuni sur notre établissement des bureaux tous les industriels ensemble autour d'un outil qu'on appelle la maquette numérique, qui est en fait un outil qui nous permet de visualiser en 3D en permanence le lanceur au fur et à mesure où les ingénieurs le dessinent. Et tout le monde partage le même outil, ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et puis l'investissement, l'innovation, nous l'avons mis dans les moyens de production. Je vais en montrer quelques exemples. Donc tout d'abord, la maquette numérique, c'est ce que vous voyez en haut à droite. Donc au fur et à mesure, nous dessinons le lanceur. C'est plus l'ingénieur de l'aérospatial de 1990 qu'il y avait tout à l'heure. C'est effectivement un outil. Vous voyez la taille de l'image par rapport à la taille de l'opérateur. On est capable d'avoir Ariane 6 sur nos écrans, enfin des écrans géants du type de celui-là, à l'échelle 1 si on le souhaite. Et nous sommes capables, vous voyez l'opérateur sur l'image en haut à droite, d'intégrer l'opérateur dans l'image et déjà de simuler les gestes des opérateurs qui vont fabriquer Ariane 6 en 2019 et en 2020. Donc, par des caméras et des capteurs qui équipent l'opérateur, l'opérateur peut simuler le montage d'un équipement, le montage d'un câble, d'un moteur, d'une tuyauterie, d'une protection thermique ou d'un autre équipement. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'aller très très vite. Je précise que pour ça, nous utilisons des outils de conception français, Katia de chez Dassault Systèmes. Et puis, donc, ça, c'est une innovation majeure. Et l'autre innovation, c'est sur les procédés de fabrication. Donc, les imprimantes 3D, vous entendez évidemment parler, nous avons déjà réalisé des pièces d'Ariane 6 en imprimante 3D et nous avons déjà testé, y compris des pièces de moteur qui sont soumises à des efforts et à des températures extrêmement élevées. On a également des nouveaux procédés de soudure, ce qu'on appelle le friction stir welding, qui est un procédé de soudure plus efficace que les soudures traditionnelles. Voilà, des premiers essais ont été réalisés, donc de façon traditionnelle, en haut à droite, des maquettes de soufflerie. Donc les versions Ariane 62 et Ariane 64 ont déjà été passées dans les souffleries de l'ONERA. Nous avons déjà réalisé des pièces en vraie grandeur, ce que vous voyez sur la partie gauche. C'est un réservoir d'étage supérieur qui préfigure un réservoir d'Ariane 6 avec des soudures en friction stir welding. Ce réservoir fait 4,60 m de diamètre. Hein. C'est peut-être pas évident en regardant la photo. Donc, quand même des pièces de très très grande dimension. Et comme je l'évoquais, vous voyez en bas à droite ce que c'est qu'un essai au banc de pièces déjà réalisées en imprimante 3D. Donc, voilà ce que c'est que Ariane 6. Alors ensuite, c'est la préparation du futur. J'ai essayé de convaincre les agences spatiales de refaire ce que nos anciens avaient fait en 79, c'est-à-dire d'imaginer Ariane 5 alors qu'Ariane 1 n'avait pas encore volé. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'arriver à dire maintenant on sait ce que va être Ariane 6, les ingénieurs de travail sont en train de la définir, de la développer, de la construire. Donc on aura Ariane 62 et Ariane 64 en 2020. Mais il faut d'ores et déjà travailler sur le lanceur européen. Alors, ce sera peut-être l'évolution de l'Ariane 6, ce sera peut-être une Ariane 7, mais travailler déjà sur ce que sera le lanceur européen de 2030. Parce que développer un nouveau moteur, c'est quelque chose qui est très très long en matière de moteur spatial. Donc c'est ce que nous avons démarré l'année dernière avec un moteur Prométhée. Notre objectif avec ce moteur, c'est de développer une nouvelle technologie plus simple que la cryogénie que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est quand même quelque chose de très compliqué. Vous mélangez l'oxygène et l'hydrogène liquide qui sont tous les deux aux alentours de moins de 200 degrés. Pour en gros les faire exploser en contrôlant l'explosion, et c'est ça qui fait les grandes flammes que vous voyez lors d'un tir et qui apporte l'énergie. Vers ce moteur, on s'est fixé comme objectif à performance à peu près identique avec le gros moteur d'Ariane 5, on s'est fixé comme objectif de diviser par 10 le prix de fabrication du moteur. Alors je rappelle quand même que le moteur d'Ariane 5 date il y a 30 ans, hein, 10 fois par 10, quelque chose qui a été conçu il y a 5 ans, le prix de quelque chose conçu il y a 5 ans, c'est quelque chose qui a été conçu il y a déjà assez longtemps et qui est encore fabriqué, bien sûr, avec les technologies de l'époque. Donc voilà l'objectif que nous faisons. La réponse pour nous à cette attente du marché des connexions Internet qui cherchent des lanceurs ou des accès à l'espace beaucoup, beaucoup moins cher, mais notre réponse est Ariane 6 pour demain matin, et c'est un nouveau moteur 10 fois moins cher pour 2025 à peu près, si les budgets, évidemment, nous permettent de le développer rapidement. Et puis, nous avons, depuis quelques années, j'ai lancé des travaux de recherche et technologie sur ce que pourrait être une autre façon de récupérer la partie coûteuse du lanceur, c'est-à-dire ce fameux moteur important qui représente des coûts élevés. Pardon. Alors, je retourne chercher encore un petit film... Nous en sommes au stade de la recherche et de la technologie, donc des images d'animation. L'idée que nous développons, qui est applicable sur n'importe quel type de lanceur, c'est une fois que le premier étage a terminé ses opérations, vous allez le voir tout de suite, donc sa propulsion. Donc nous séparons les boosters. Et l'idée ensuite est de séparer la partie arrière du lanceur, ce que vous allez voir ici. Et de récupérer uniquement ce qui vole maintenant, donc la partie basse, c'est-à-dire le moteur, avec l'électronique associée et les différents éléments d'alimentation de ce moteur. Et de le récupérer, non pas en le faisant réatterrir à l'horizontale, parce que ça cause énormément de problèmes, et notamment ça consomme énormément d'énergie, mais de le faire réatterrir tout simplement comme un avion, en mettant sur les deux ailes qui accompagnent cette partie basse du lanceur, deux petits moteurs d'avion, que vous allez voir apparaître dès qu'on a enlevé les capotages. Voilà, les hélices se mettent en route. Donc vous voyez dans les petites fenêtres des essais que nous avons menés sur du matériel en vraie grandeur ou à échelle réduite. Et notre idée, donc ça c'est une maquette réduite que vous voyez en bas à gauche, et donc de faire réatterrir sur une piste d'atterrissage tout à fait normale la partie la plus coûteuse du lanceur, donc ce moteur. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas à réallumer le moteur pour le faire réatterrir, on n'a pas consommé d'énergie, simplement l'énergie des deux moteurs aéronautiques qui sont des moteurs tout à fait classiques avec du kérosène. Et l'idée ensuite est bien sûr de ramener cette partie basse, remettre un réservoir, reconstruire un lanceur et pouvoir repartir le plus rapidement possible. Voilà les sujets sur lesquels nous travaillons, sur lesquels nous investissons surtout de la matière grise, pour essayer de trouver, voyez, l'objectif de réduire de 30% encore le coût du lanceur qui succédera à Ariane 6. Voilà où nous en sommes, et donc pour arriver à la conclusion, en attendant vos questions, si nous avons encore un petit peu le temps, si je n'ai pas été trop long.
Nous sommes en tête avec Ariane 5, 71 lancements consécutifs réussis avec Ariane 5. Nous en sommes à plus de 12 années sans échec sur le plan d'Ariane 5, c'est un arrivera probablement un jour, mais enfin, en tout cas, pour le moment, 12 années sans échec de lancement d'Ariane 5, ce qui prouve le niveau de maîtrise des compétences que nous avons en Europe. Nous continuons de faire la course en tête grâce à Ariane 6, le programme est parti, l'organisation industrielle est en place, la conception du lanceur est faite, les premières pièces sont fabriquées, les premiers essais ont été réalisés. Ce lanceur volera en 2020, j'en suis sûr, je peux vous garantir que la motivation de toutes les équipes industrielles et des agences comme le CNES ou l'Agence spatiale européenne est absolument fantastique. Et puis nous préparons bien évidemment le futur avec ce que je vous ai montré, un moteur moins cher et également des concepts de réutilisation. Voilà, et pour terminer, le dernier petit film, je vous fais voyager à bord d'Ariane 6 comme si vous étiez déjà en 2020. Voilà, donc la version Ariane 64 a décollé. Nous allons retrouver des séquences traditionnelles pendant le vol de la fusée Ariane, le largage des boosters, puis ensuite la fin de poussée du premier étage. Voilà, donc à ce moment-là, nous sommes dans l'espace, donc on enlève la coiffe qui protégeait les deux satellites. Puisque dans l'espace, nous n'avons plus d'efforts aérodynamiques et plus de pollution des satellites. La séparation du premier étage, l'allumage du moteur du deuxième étage pour arriver à pousser dans l'espace. On oriente le satellite dans la bonne direction pour le mettre avec une grande précision sur son orbite finale. Puis donc, nous aurons sur Ariane 64 un deuxième satellite, la capacité de réallumer le moteur pour emmener le deuxième satellite autre endroit dans l'espace par rapport au premier satellite et le largage de ce deuxième satellite. Voilà, j'espère vous avoir fait passer un petit moment dans l'espace et je suis à votre disposition. Les satellites, comme je disais, qui servent aux télécommunications sont à 36 000 km d'altitude. Je ne vais pas faire le calcul, mais enfin, ils sont au-dessus de l'équateur. Ils sont tous au-dessus de l'équateur à 36 000 km d'altitude. Donc il y a quand même quelques places pour mettre des objets de quelques mètres cubes sur cette orbite. Ce qui est plus gênant, c'est les orbites plus basses. Quand on parlait de constellations de jusqu'à 4 000 satellites, et il pourrait y avoir plusieurs constellations de cette étoile sur l'orbite à 1 000 km d'altitude. Donc ça, il y a une réflexion qui est menée sur plusieurs axes. D'abord, un axe réglementaire. Il faut savoir que tous les pays dans le monde n'ont pas forcément de loi qui organise l'accès à l'espace. La France est dotée d'une loi, on aime bien ça en France, quand on était dans les premiers à faire une loi. Vous n'avez pas le droit, quand vous êtes une société française ou quand vous êtes sur le territoire français, d'envoyer quelque chose dans l'espace sans avoir été autorisé. Et si vous voulez envoyer quelque chose dans l'espace, vous êtes trié, alors le satellite est plutôt resté, et les étages de lanceur, le deuxième étage du lanceur, lui, comme il accompagne le satellite jusqu'au bout, si on ne fait rien, il reste dans l'espace aussi. Et donc il y a autant d'étages supérieurs dans l'espace qu'il y a que le satellite. Sauf que donc, la France est dotée d'une loi, et donc nous sommes obligés de faire rentrer l'étage supérieur et de le faire brûler dans l'atmosphère. Donc, comme je le disais, le CNES donc, est l'autorité qui veille à la bonne exécution de cette loi. Donc, on ne peut pas concevoir un lanceur sans avoir le timbre du CNES disant « Vous pouvez y aller et vous me garantissez que l'État va bien revenir dans la France. » Bon, deuxième chose sur laquelle... Alors ça, les Américains ont une loi. Les autres pays sont en train de regarder s'ils peuvent faire quelque chose. Et en particulier, les États russes... Bon, deuxième chose, on réfléchit à des technologies qui pourraient permettre d'aller chercher un satellite mort, dont la vie se serait terminée, soit parce qu'il est en fin de vie. En général, les satellites en fin de vie, parce qu'il n'a plus d'énergie électrique, ses batteries sont trop vieilles. C'est des batteries qui se rechargent avec des panneaux solaires, mais comme vos batteries de téléphone ou d'autres objets, au bout d'un certain temps de recharge, la batterie s'épuise. Donc c'est ça qui fait en général la fin de vie du satellite. Donc à ce moment-là, on est en train de regarder comment aller chercher ce satellite avec un petit camion, si vous voulez, hein, qui serait capable de ramener le satellite pour le faire brûler dans l'atmosphère en le faisant rentrer à très très grande vitesse dans l'atmosphère. Mais c'est un vrai sujet, donc avec ces deux aspects, l'aspect réglementaire, puis c'est pas tout, même si vous n'avez pas respecté la loi, que le satellite il est là-haut et qu'il fait un peu n'importe quoi, si je puis dire, ça ne résout pas le problème. Vous pouvez avoir une pénalité financière éventuellement, mais un satellite est toujours là. D'où cette idée d'avoir un camion nettoyeur, si je veux dire, qui aille dans l'espace chercher des satellites et les fasse disparaître. Mais on n'en est pas là, c'est un sujet qui devient très très sérieux.
Merci. Tu as fait remarquer que la fiabilité d'Ariane 5 avait été remarquable, qu'elle est toujours remarquable. Est-ce que dans le cadre de la réduction des coûts sur Ariane 6, on pourrait imaginer une fiabilité un peu dégradée ? Est-ce qu'il existe une courbe de la dégradation de la fiabilité par rapport au cost ? Parce que les satellites vont coûter moins cher. Perdre un satellite, ce sera moins important qu'avant, étant donné l'augmentation du nombre. On peut peut-être imaginer un peu moins de réussite.
Non, merci, c'est une bonne question. Donc effectivement, la fiabilité, elle a un coût, ou si je puis dire, elle a une récompense. C'est qu'en général, les satellites sont assurés contre un échec. Et donc effectivement, les primes d'assurance, en ce moment, sont plus faibles pour Ariane que pour nos concurrents. Tous nos concurrents ont eu des échecs, les Russes, les Américains, les Chinois, les Indiens, les Japonais, tous, depuis moins de 10 ans. On en bénéficie parce que les assureurs demandent à Ariane Espace effectivement une prime d'assurance qui est moins élevée et ça peut jouer sur quelques pourcents sur le prix du lanceur. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Donc il est vrai que ça existe. Alors après, sur la vraie question, moi je ne suis pas sûr de maîtriser les ingénieurs si je leur dis de faire de la mauvaise qualité. Donc moi je pense qu'ils vont faire un lanceur Ariane 6 moins cher. Et avec la même qualité, parce que c'est ce qu'ils savent faire, c'est ce qu'on leur demande de faire. Je parle des ingénieurs, mais c'est la même chose pour les techniciens ou les ouvriers qui sont dans les ateliers de production. Et je pense qu'on va faire pratiquement deux fois moins cher, mais avec le même niveau de qualité. Et les courbes, effectivement, entre le prix, la performance et la fiabilité, elles existent, mais elles existent après coup. On a les courbes statistiques de tous les lanceurs dans le monde avec leur taux d'échec et leur courbe de fiabilité. Mais se dire à l'avance, je vais faire un lanceur qui aura 90% de taux de réussite au lieu de 99%, je ne pense pas que les ingénieurs savent faire. Alors il y a plein de gens, statisticiens et autres, qui font des calculs de fiabilité, comme dans tous les métiers. calculée. Hein, dans l'aéronautique, une pièce est calculée avec un certain taux de fiabilité pendant son utilisation, et notamment avec le vieillissement des pièces. C'est vrai dans l'automobile, c'est vrai partout. Philippe le maîtrisait très bien pour ses ampoules électriques, puisqu'il savait parfaitement quelle serait la durée des ampoules électriques. Et il mettait volontairement une limite à la durée des ampoules pour que vous rachetiez des ampoules électriques régulièrement. Dans l'espace et dans les hautes technologies, c'est plus difficile à maîtriser. Et en tout cas, moi j'ai un message très clair. C'est pour ça que j'essaye d'éviter le low cost, parce qu'il y a une association dans l'esprit des gens entre low cost et basse qualité. Et moi je préfère arriver à concevoir quelque chose qui va être produit moins cher, mais en gardant le même niveau de qualité.
Sans rentrer dans trop de détails techniques, bien sûr qu'on va le faire. Et l'énorme innovation, je n'ai pas insisté là-dessus, Ariane 6 par rapport à Ariane 5, c'est ce qu'on appelle le réallumage de l'étage supérieur. Aujourd'hui, l'étage supérieur d'Ariane 5, c'est comme l'allumette, on l'allume, va fonctionner pendant une vingtaine de minutes, mais on ne sait pas l'arrêter et le réallumer plus tard. C'est quelque chose qu'on maîtrise sur le nouveau moteur qui est Vinci. On l'a testé au vent à plusieurs reprises, et donc on aura, avec Ariane 6, la capacité de réallumer le moteur. Et ça, c'est absolument fondamental pour pouvoir justement envoyer les petits satellites, hein, pour répondre à ta question. On va mettre à bord d'une Ariane 62 ou 64, 30 à 50 petits satellites. On va les mettre en grappe avec un support qui va permettre de les fixer astucieusement, et puis ensuite on va les larguer un par un dans l'espace. Et si on les largue un par un en même temps, ils vont se rentrer les uns dans les autres. Donc en fait, il faut être capable, je schématise un peu, d'envoyer quelques satellites à un endroit, on va réallumer le moteur, mettre quelques satellites à un autre endroit ou sur une autre orbite, de façon à ce que les satellites soient bien répartis sur les différentes orbites autour de la Terre. Donc la technologie, c'est effectivement le moteur réallumable, sur ce qu'on appelle un dispenseur, qui va permettre justement de fixer une trentaine ou une quarantaine de satellites pour pouvoir les disposer dans l'espace correct. Mais comme je l'ai dit, nous écoutons nos clients avant tout pour concevoir un Ariane 6 et nous tenons les exigences de nos clients sur ce type de déploiement de constellation.
Essentiel. Bon, ce moteur, il est en développement en fait depuis 2002. Mais son développement a eu énormément de soucis, uniquement des soucis budgétaires. Le développement technique s'est très très bien passé, mais décembre 2002, alors que ce moteur venait d'être, le programme venait d'être décidé, il y a eu l'échec, le dernier échec d'Ariane 5 en décembre 2002. Donc les efforts ont été mis sur le retour en vol d'Ariane 5 jusqu'en 2005-2006. Donc là, on a repris le développement du moteur à peu près là où il en était. Et c'est pour ça que ce moteur, il est maintenant qualifié au sol. Il a subi, je ne sais même pas dire combien de dizaines d'essais de réallumage de plus ou moins longue durée. Et on va démarrer dans les prochains jours. On a pris 15 jours de retard, mais on va démarrer une nouvelle campagne d'essais. Ce sera le cinquième moteur qui sera testé sur des bancs d'essais qui sont en Allemagne, dans l'ouest de l'Allemagne. Donc on va démarrer, c'est la cinquième campagne. Ensuite, il y aura un sixième moteur avec une campagne d'essais de qualification avant de fabriquer le premier moteur pour vol. Bon, Alors, ensuite, la performance de réallumage, comme je l'évoquais tout de suite pour les constellations, on n'en a pas forcément besoin pour tous les satellites. Et on va commencer pour les premiers vols d'Ariane à envoyer des satellites sans avoir besoin de cette performance de réallumage. Donc on va avoir une courbe d'apprentissage des essais sols vers les premiers vols avant vraiment de faire la première mission avec la performance maximale de réallumage du moteur. Bon, alors après, il serait évidemment très onctueux de dire que je suis sûr à 200% qu'en juin 2020, Ariane 6 va voler. Mais une fois de plus, il y a des compétences phénoménales dans l'industrie européenne, vraiment phénoménales, extraordinaires. Il y a 10 ans, on était incapable de livrer un lanceur Ariane à l'heure. Le lanceur Ariane 5, il était livré quand on avait fini de l'essayer, quand on avait fini de valider toutes les modifs et toutes les petites anomalies de production. Ça fait 4 ans maintenant qu'on n'a pas une seconde de retard sur un vol Ariane 5 à cause du lanceur. Il peut y avoir un retard à cause de la météo ou un satellite qui a un petit pépin au dernier moment. Ça fait 4 ans qu'il n'y a pas une seconde de retard à cause d'un lanceur Ariane 5. Donc vous voyez la capacité de progrès, de tenue des délais, de qualité que les ingénieurs européens possèdent dans le spatial.
Et je me dis, est-ce qu'on a, au niveau européen, quelque chose qui imagine cela ? Et où est-ce qu'on est condamné à simplement être fournisseur de lanceurs sur le marché ? Parce qu'en fait, les Américains possèdent tout actuellement. Hein. Et Dieu sait si un chef en tous les endroits. L'information, pour moi, c'est une richesse, qu'elle soit militaire, économique. On domine le monde avec ça. Je pense qu'il y a un grand enjeu avec ça, parce qu'on a vu l'aspect technologique, mais derrière tout ça, pourquoi on trouve ça, pourquoi en faire des milliers de satellites, c'est bien pour capter l'information. Voilà, merci.
Allez. Merci, ça me fait plaisir de se voir, parce que ça va faire quelques dizaines d'années. La question est pertinente et compliquée. Moi, je suis surtout incompétent pour y répondre. C'est vrai qu'il y a pas mal de secteurs, notamment le secteur de la maîtrise de l'information, de l'accès à l'information et du transport et du traitement de l'information sur lequel l'Europe, comme sur d'autres sujets, loupe une marche. Bon, il ne faut pas non plus voir tout de façon totalement négative. Ce que je vous ai montré ce soir, c'est quand même l'Europe qui fait la course en tête. Hein. Et c'est l'Europe, la Chine, la Russie, les États-Unis, point. Donc on a aussi des compétences en Europe dans le domaine de l'accès à l'espace. Donc moi, je vais pas répondre sur le traitement des données. Bon, il est évident que de tout ce qu'on appelle le big data management, l'Europe n'est pas très présente sur ces sujets-là et on a déjà pris au moins un train de retard. Par contre, enfin, ce que je veux dire sur l'aspect stratégique, je suis allé deux fois à Bruxelles cette semaine, encore ce matin, pour essayer d'expliquer à la Commission européenne qu'effectivement, il faut Ariane 6, parce que si on n'a pas accès à l'espace, c'est encore pire. Alors, aujourd'hui, vous avez en Europe des sociétés leaders sur Ariane. Vous avez deux fabricants de satellites qui sont dans les 5 premiers mondiaux en Europe, Airbus et Thales Alenia Space, qui est une alliance entre Thales, le français, et l'italien, Alenia. ce sont deux fabricants de satellites qui sont les premiers dans le monde. S'il n'y avait pas de lanceurs, on n'aurait pas de fabricants de satellites au premier niveau. Et puis derrière ça, il ne nous a pas échappé que s'il y a des opérateurs de télécommunications en Europe qui sont les meilleurs du monde, si vous avez les abonnements téléphoniques les moins chers du monde, parce qu'on a, vous avez vu dans la presse il y a quelques semaines, passé 4 à 3 opérateurs de téléphone, c'est un débat, mais c'est aussi parce qu'on a toute cette filière d'accès à l'espace, les satellites, les opérateurs de télécom. Donc ça, c'est une filière qu'il faut absolument protéger. Et j'ai essayé d'expliquer à la Commission européenne, effectivement, que c'était une stratégie. Parce que j'ai... On n'a peut-être pas le temps de rentrer dans ces détails, mais la Commission européenne est en train de se dire, mais est-ce qu'il faut vraiment faire un ANSIS? Est-ce qu'il faut vraiment qu'Airbus 500 Launchers existe et prenne le contrôle d'un dernier espace? Est-ce que tout ça, ça ne va pas distordre la concurrence? Donc, on fait 5 lancements par an, alors que les concurrents en font entre 20 et 30. Et donc voilà, je suis obligé de passer par ce canal-là. Et donc encore ce matin, j'expliquais que, ben, effectivement, il y a un enjeu stratégique, ce n'est pas que la technologie, j'ai insisté beaucoup sur l'aspect coût ce soir, mais il y a un enjeu stratégique pour l'Europe. Alors, tu as parlé de données, mais on pourrait parler de, puisqu'il y a eu la COP21 à Paris, la surveillance du climat. L'espace permet une surveillance du climat, alors qui est utile aussi pour la météorologie. Une fois de plus, la météorologie, l'Europe est en pointe en fait, la météorologie. On n'a pas à rougir de ce qu'on fait en météo en Europe. Même si on aimerait bien que ce soit plus fier de là aussi, de temps en temps. Donc, et ça, c'est aussi grâce à l'espace. On a des satellites en Europe, l'observation de la Terre, l'observation du climat, mesure de l'évolution du phénomène des glaces, mesure de l'odeur des mers, tout ça sont des satellites européens. Et on est vraiment, en termes de satellites, au premier rang avec les Américains. Sur le satellite, sur les instruments de mesure. J'ai une petite filiale dans mon domaine qui s'appelle Solerm, qui fait des instruments de mesure extrêmement pointus. Et bien, le Jet Propulsion Laboratory, qui est le laboratoire scientifique de la NASA, était chez eux le mois dernier pour la mise au point d'un instrument qui va voler dans 3 ans pour une mission de Mars. Donc voilà, on a des poches technologiques en Europe. Bon, par contre, après, sur le traitement des données, je suis d'accord. Quand on dit traitement, certains comprennent manipulation, évidemment. Donc là, c'est vrai que l'Europe est un peu absente par rapport aux grands de l'Internet que j'évoquais tout à l'heure, comme Google, Facebook, Amazon et d'autres. Voilà, je ne réponds pas à ta question, mais ne soyons pas complètement négatifs, parce que l'Europe a quand même des possibilités absolument extraordinaires. Et effectivement, il faut continuer de nous battre. C'est pour ça que je viens avec plaisir à l'Académie, parce qu'il faut effectivement soutenir les efforts technologiques, soutenir le développement de l'industrie, le développement des écoles. Il faut ça aussi que je passe un tout petit peu de temps à l'école des arts et métiers, parce que tout ça, c'est la préparation de demain, sur le multisecteur et le secteur du spatial.
Une dernière question. Qui est en rapport un peu avec l'actualité. J'ai regardé dans les camemberts et finalement la Grande-Bretagne semble totalement exclue de. Alors quand on parle d'Europe, il y a une partie importante qui apparemment n'est pas participante. Je suis donc.
Non, c'est exact. La Grande-Bretagne n'a jamais investi un euro dans rien. Depuis le début, alors pour des raisons que je ne sais pas expliquer, moi je n'étais pas là au début de l'aventure Ariane. Il est clair que la France, je ne vais pas partir trop longtemps là-dessus, la France a aussi, à l'époque du général de Gaulle, démarré la fortune sur la base notamment des missiles balistiques. Et il y a eu une cohérence très très importante entre les missiles balistiques de la force nucléaire française et les lanceurs. La même chose, il s'agit d'envoyer des objets dans l'espace. Simple, entre guillemets, différence pour nous, hein, côté lanceur, c'est que le missile balistique, l'objet revient très très loin, il est presque satellisé, mais il finit par revenir, alors qu'un satellite, effectivement, reste dans l'espace. Donc, c'est en gros la seule différence. Le même moment de ces décisions du général de Gaulle et d'autres, hein, les Britanniques ont fait un autre choix qui a été d'acheter des missiles balistiques américains. Donc ils n'ont jamais développé de compétences d'accès à l'espace pour des questions stratégiques, cette fois-ci des questions stratégiques de défense, et ensuite des questions stratégiques d'accès à l'espace. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être un embryon de
poussez vos caricatures de politique, enfin, qui parfois le méritent, hein. Mais vous avez aussi des politiques qui prennent des décisions extrêmement structurantes. Quand vous avez une décision qui est prise, effectivement, il y a 50 ans, en France, de dire on aura notre capacité d'accès à l'espace et d'être à l'exil, on achètera un américain, c'est une décision politique structurante pour toute votre industrie, et tout ce qui va avec, le monde scientifique, le monde académique, quand on parle, par exemple, de climatologie, pour ne citer que ça. Voir aussi qu'on a des mathématiques de très très haut niveau dans un lanceur, des algorithmes de pilotage du lanceur relèvent de mathématiques appliquées de très très haut niveau. Donc, voilà, c'est une décision politique qui est prise, et bon, après les Anglais font d'autres choses que les Français ne font pas, très certainement.
Merci. Il nous reste de vous remercier à nouveau, M. Charmont. En tout cas, nul doute que vous ayez conquis l'assistance. Centaines de partisans d'Ariane 6 supplémentaires. Merci.